chapitre 7.
J'ai vérifié son empreinte génétique. Elle correspond à l'ADN trouvé dans le sang du linceul. Il s'appelle Jimmy Wood. Il a 32 ans. C'est un réparateur de piscine. Buddy Kupperman écouta sans broncher. Puis il renifla, gratta son genou gauche en lisière du Bermuda et s'extirpa de son fauteuil pour aller contempler la plage en contrebas. Irwin Glasner parcourut du regard l'espèce de serre sur pilotis où vivait l'ancien scénariste de la Maison Blanche. Un fouillis de livres et de scripts entassés sur des établis, parmi d'immenses canapés en toile de bâche, des totems africains, des cartons d'archives servant de table basse et des plantes vertes exubérantes aux feuilles couvertes de post-it. Les mains croisées dans le dos, Kupperman agitait ses doigts entre les cocotiers de sa chemise rouge. Englouti de travers dans un pouf en peau de zèbre, Irwin l'observait attentivement. Il n'avait pas changé en 25 ans, ni maigri, ni blanchi. Toujours le même pachyderme à toison rousse, avec son teint cramoisi et ses lunettes en plastique noir au bout d'un nez de boxeur. Après son éviction de la Maison Blanche, Buddy avait repris son métier par la petite porte, consultant au bureau de liaison du film militaire, qui veillait aux bonnes relations entre Hollywood et le Pentagone. Il était chargé de corriger les scripts des films de guerre lorsque les producteurs sollicitaient le concours, le matériel et la figuration de l'armée. Après avoir durant 20 ans scénarisé la politique, il prenait un malin plaisir à politiser les scénarios sous prétexte de crédibilité et d'identification des jeunes en vue de leur recrutement. Ainsi transformait-il, pour les rendre sympathiques, les officiers en pantins glorieux manipulés par des civils mégalos, magouilleurs et versatiles. Les chefs du Pentagone avaient néanmoins décelé à la longue le caractère pernicieux de cette image héroïque et renvoyaient Buddy en achetant son silence plus cher qu'il ne payait ses dialogues. Incapable d'envisager la retraite, il s'était alors reconverti dans l'écriture de films à budget réduit pour les studios indépendants, puis avait fini, de navets prévisibles en chef-d'œuvre incompris, par pondre à la chaîne des épisodes d'Alerte à Malibu, la doyenne des séries télé qui se tournaient en bas de chez lui. Vivant au milieu de naïades siliconées qui venaient le sucer entre deux prises pour qu'il leur ajoute du texte, Buddy Kupperman arborait ses 80 ans de graisse illégale comme une insulte vivante aux gouvernants qui avaient cru pouvoir se passer de lui et se rappelait périodiquement à leurs bons souvenirs en annonçant la sortie imminente du deuxième tome de ses mémoires dont il n'avait toujours pas écrit le premier mot. Éclatant de santé sous sa difformité physique, il confirmait ce qu'Irwin Glasner, à une échelle plus modeste, avait pu constater pour lui-même: la déchéance conserve. Un réparateur de piscine, murmura Buddy, le front contre la vitre. L'agitation de ses doigts croisés trahissait le rythme de sa pensée. Irwin se leva et le rejoignit. Visiblement, il ignore toutes ses origines. Il travaille dans le Connecticut et habite un clapier à l'est de Harlem. Célibataire, hétéro, pas de relation sexuelle connue. Une liaison avec une femme mariée pendant 3 ans qui s'est arrêtée en janvier. Parfaite santé, si ce n'est une petite surcharge pondérale apparemment liée à son problème de solitude.
Et en quoi ça me concerne ?
Irwin n'avait rencontré Kupperman que 3 fois dans sa vie, ça lui suffisait pour sentir l'exaltation contenue dans le grognement du vétéran d'Hollywood. Les services secrets ne le lâchent pas d'une semelle, mais franchement, Buddy, on ne sait pas comment le prendre. Faut-il l'aborder frontalement, l'amener à découvrir tout seul la vérité, ou le rencontrer sous un prétexte qui permette de gagner sa confiance ? Buddy se retourna d'un coup, l'air crispé, le tranchant de la main à hauteur du nombril.
« Bon, et vous voulez quoi ? Que je vous dialogue ?»
« Le président Nelcott a lu vos mémoires, » mentit le conseiller scientifique. « Il adore la manière dont vous décrivez le fonctionnement de la Maison Blanche. »«
Sa politique étrangère est la plus nulle qu'on ait vue depuis Carter. Il l'a fait tout seul ?»
Il nous a demandé plusieurs mémos sur la manière de traiter la situation, les cas de figure qui peuvent se présenter. Le résultat ne le satisfait pas.
Et alors ?
Irwin écarta les bras. En fait, c'est lui qui avait convaincu Nelcott de nommer un coordinateur pour diminuer l'effet des rivalités internes. La CIA, dont relevait le projet Omega en raison de ses implications internationales, n'avait pas le droit d'intervenir officiellement sur le territoire américain et l'enquête concernant Jimmy était confiée au FBI. La guerre éternelle que se livraient les deux agences de renseignement, encore aggravée depuis leur collaboration forcée et la fusion de leurs fichiers, ne manquerait pas de perturber une fois de plus le déroulement des opérations. Irwin se rappelait l'enthousiasme forcené de Buddy en apprenant jadis l'existence d'un éventuel messie recréé par clonage. Il comptait sur sa psychologie indépendante et pragmatique pour désamorcer les querelles de clochers, les coups tordus, les fuites et les cafouillages. Se sachant condamné à brève échéance, le conseiller scientifique souhaitait laisser à la tête du projet Omega une personne motivée, débordant de roueries généreuses et insensible aux pressions. Si jamais Jimmy Wood s'avérait digne d'incarner le dernier rêve de l'humanité, il fallait monter autour de lui une structure fiable et mettre en scène le message de Jésus dans un show planétaire que seul un Kupperman était à même de concevoir. Le président avait approuvé le choix. Il aimerait une consultation, Buddy. Le scénariste poussa un soupir, regarda les sirènes en rouge fluo qui se tortillaient dans les vagues autour des caméras en sauvant pour la dixième fois un noyé culturiste.
« Je ne bosse pas en consultant. Si je reviens, c'est comme conseiller en titre, avec mes annuités rétroactives et le bureau d'angle de l'aile ouest. »
Glasner encaissa avec un sourire embarrassé la revendication qu'il avait prévue. « Buddy, c'est celui du conseiller à la sécurité nationale. »
C'était celui d'Henry Kissinger, et poser mon cul dans son fauteuil est la seule chose qui puisse me faire revenir. Transmettez.
Irwin secoua la tête, amusé malgré lui. Écoutez, Kupperman, je suis venu jusqu'à Los Angeles pour vous demander conseil. D'accord, mais ça ne va pas plus loin.
Si. Parce qu'il va se passer quoi, sinon? La division psycho de la CIA va prendre l'affaire en main, nommer des commandos de crâne d'œuf qui vont peaufiner leur profil, leur non-dit, leur transfert et autres conneries. Ils sont très forts pour négocier avec les terroristes et embobiner les preneurs d'otages, mais ne leur demandez pas de jouer les anges Gabriel. Il s'agit de quoi, là? D'un brave type de la rue qu'il faut persuader, analyse de sang à l'appui, qu'il est le remake du Christ, non?
C'est un peu schématique. Tout dépend de sa réaction.
Et de vos objectifs. Vous voulez en faire quoi de votre Jésus clone? Un terrain d'étude, un cobaye ou un symbole? Une arme de propagande, une source de profit ou une monnaie d'échange? Un instrument de paix ou une machine de guerre?
C'est un peu tôt pour...
Mais non, c'est maintenant, Irwin. Tout son conditionnement, dès la révélation de ses origines, dépendra de l'usage que vous voudrez faire de lui. C'est maintenant que vous devez me donner la cible, m'indiquer les lignes de force, les options et me définir l'impact. Ensuite, je développe, j'élabore différents moyens d'atteindre le but et vous choisissez la version qui vous arrange.
Les grosses mains du scénariste s'abattirent sur les épaules d'Irwin et le secouèrent avec enthousiasme.
Vous y pensiez vous aussi, hein, toutes ces années, à ce prophète cloné qui se baladait sur Terre sans le savoir, anonyme, inemployé, gâché par les obsessions puritaines de l'autre andouille.
J'étais certain qu'il était mort, murmura Irwin.
Parce que vous n'êtes pas un rêveur, Glasner, vous êtes un nostalgique. J'en ai crevé de rage, moi. Tout ce temps perdu à cause des choix de ce Bush et de l'énergie mobilisée pour justifier ses bourdes. Avec lui, dès son arrivée, c'était pétrole à tous les repas. Pour avoir la paix, je lui avais dit d'escamoter Saddam et d'installer à sa place un des sosies que je contrôlais, au lieu de cette guerre à la con qui a cassé tout mon boulot souterrain. Il n'a pas voulu de mon idée, il m'a viré, et on a vu le résultat. Il fallait monter de faux attentats Ben Laden en Angleterre, en Allemagne, en France, et frapper leurs ambassades à Bagdad. Ça obligeait l'Europe à intervenir. Après, on serait venu au secours pour récupérer les forages. C'était ça, la stratégie gagnante. Mais non, il voulait sa guerre du Golfe, comme papa. Faire mieux que le vieux, quitte à se retaper un Vietnam du pauvre. Font chier avec leur Oedipe.
Vociférant, battant l'air dans les remous de sa graisse, Buddy slalomait entre les cartons qui parsemaient la pièce. Au premier abord, Irwin avait eu un haut-le-corps en voyant les sceaux de la Maison Blanche et les stickers Secret Défense sur les emballages marqués Ronald, George 1, Bill, George 2, classés par thème, livrés à la curiosité des visiteurs. En fait, les cartons étaient vides, cumulant simplement les fonctions de trophée de chasse et d'aide-mémoire.
« Moi, W, s'il m'avait gardé, je l'aurais rendu sympa comme Reagan. On aurait refait le coup de la dinde. Il n'en a pas voulu. Je lui avais montré la cassette, pourtant. Tu sais, les vœux du nouvel an à la presse, au moment de l'Iron Gate. Quand je lui ai fait présenter la dinde qu'il allait manger le soir à Nancy. J'avais prévu les questions, et j'avais briefé le père Ronnie, je lui avais fait répéter la scène. Au moins, lui, il se laissait dialoguer. Tu te rappelles ?«
Monsieur le Président, est-il vrai que les États-Unis ont vendu des armes à l'Iran ?»«
Messieurs, on ne me dit pas tout. Demandez à la dinde. » Éclat de rire, il a gagné 10 points d'un coup. Il était perçu comme un veau, on l'a pris pour un renard.